Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, c'est une nouvelle émission, parce qu'il n'y a pas que les podcasts généraux qui ont le droit à leur nouvelle émission, il y a aussi les podcasts sur Sens qui ont le droit à une nouvelle émission. Et une nouvelle émission qui a été très demandée par les auditeurs, puisqu'il s'agit d'une émission pour les joueurs. J'ai autour de moi 4 joueurs qui ont commencé la campagne de Sens et qui ont joué uniquement, qui ne savent rien, absolument rien de l'univers, mis à part ce que des joueurs « normaux » entre guillemets doivent savoir des épreuves 1 et 2. Autrement dit, chers joueurs, si vous êtes à l'épreuve 2, vous pouvez écouter ce podcast sans souci. Ce qu'on va entendre là, ce soir, ce sont les hypothèses, le rapport de partie de joueurs qui ont commencé la campagne de Sens. Et toutes les 2 épreuves, ces joueurs qui sont avec moi ce soir, vous raconteront leurs expériences de partie, leurs théories, et vous allez comme ça pouvoir suivre en live l'aventure Sens, une campagne de Sens, avec Julien. Julien, ça va la pêche ?
La pêche, Romaric.
La patate ?
Ça va, ça va.
Nous sommes également avec Antoine.
Bonsoir.
Nous sommes avec Audrey.
Bonsoir.
Nous sommes avec Amir.
Bonsoir.
Et tous ces gens sont des fous. C'est-à-dire, moi, en tant que maître de jeu, je ne peux pas rêver des joueurs meilleurs que ça. Ils ont, faut les imaginer en fait. Autour d'eux, là, ils ont leur PC, ils ont leurs notes, ils ont leurs fiches, ils ont pris des notes, ils sont au taquet. Ils savent que Sens est un jeu à secret et ils vont vous le décortiquer en long, en large et en travers. J'ai l'impression que vous avez même fait des recherches sur Internet. Je crois, Julien, que tu as même créé un site. Je sais pas si.
Oui, c'est ça, j'ai mis en place un.
Alors, explique-nous déjà ça. Alors, ça, c'est extraordinaire déjà.
C'est un wiki, c'est parce que comme on savait qu'après la partie, on allait se séparer, il fallait qu'on puisse mettre en commun nos notes et qu'on continue à discuter, même quand on n'était pas ici. Et donc, on a mis en place un petit wiki qui est un site qu'on peut tous modifier.
C'est énorme.
Pour pouvoir mettre en commun nos notes.
Voilà. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire, là, vous voyez, quand je vous disais, chers auditeurs, que j'ai des joueurs parfaits, c'est-à-dire qu'ils ont même mis en place une plateforme sur Internet, enfin dans leur réseau, pour pouvoir discuter du jeu. Alors évidemment, vu que moi je suis assez occupé, en fait, le maillon faible dans cette team, c'est moi en fait. C'est-à-dire que moi, comme je suis à MJ qui est assez occupé de par mes activités rôlistiques, de la série, tout ça, je suis pas au top sur votre. Mais justement, vous avez profité de ces podcasts pour m'expliquer un petit peu. Alors, déjà,
nous,
Antoine,
on avait le principe de base du wiki, c'était de se dire il faut qu'on puisse continuer à parler entre nous sans impliquer Romaric. Donc ça, c'était la première chose, de manière à ce qu'on savait que tu étais très occupé. C'était de se dire que si on avait des questions, peut-être que l'un des autres avait dans ses notes la réponse. Donc plutôt que de se solliciter à chaque fois sur « Ah, c'était quoi le nom de ce personnage ?»« Ah, c'était quoi le nom de ce lieu ?» C'était de pouvoir s'appuyer sur les ressources des autres pour trouver la réponse sans te solliciter. Donc ça a été la première motivation à ce wiki.
C'est assez génial. Audrey, tu voulais ajouter quelque chose ?
C'était aussi une bonne manière pour continuer à jouer entre les parties.
Ouais, parce qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que de par les activités de chacun d'entre nous, on a énormément de difficultés à se retrouver facilement, on va dire. Donc on se voit à peu près tous les 2 mois. Par contre, on va dire en moyenne, je pense que c'est à peu près ce qui va se passer. Non, vous avez l'air de... Si, ça va être ça, à peu près tous les 2 mois. Mais par contre, à chaque fois, on se fait un week-end et donc on joue 2 épreuves d'affilée. C'est pour ça d'ailleurs que ces podcasts sont aussi séquencés 2 épreuves par épreuve. En tout cas, on essaiera, on va voir. Hein. Peut-être qu'on n'aura pas toujours l'occasion d'enregistrer ou qu'on enregistrera parfois après une seule épreuve seulement. Mais dans l'idéal, ce serait ce rythme de diffusion. Alors, d'abord, première épreuve, épreuve 1, l'épreuve du poète. Est-ce que déjà, on ne peut pas commencer par présenter les personnages qui vont arpenter cette épreuve ? Julien, quel est ton perso ? Raconte-nous.
Donc moi, je joue Kerry San, donc une jeune bug qui a survécu donc aux tragiques incidents de la Nouvelle-York et qui en est ressortie avec un jeune frère dont elle s'est toujours chargée de protéger, mais qui lui n'est pas un bug. Et à travers ça, elle subit une espèce de conflit d'intérêts ou de personnalité qui l'amène à se poser la question « Pourquoi moi et pas lui ? Et comment le protéger ?»
Ça, c'est fameux, ça. Vraiment. Alors, il faut savoir que ça, c'est l'objet d'une épreuve qui s'appelle l'épreuve 0. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler pour créer ton personnage, l'épreuve d'Akina. dans lequel justement on va... Toi tu l'as faite, non Antoine, avec Maxime et Morgane, non?
Alors moi c'est un peu particulier, c'est-à-dire que moi j'ai commencé sans convention avec Maxime et Morgane. D'ailleurs je vous invite à écouter le podcast sur le double MJ qu'ils avaient fait.
Il n'y a pas de spoil?
Non, je crois pas. Non. Okay. Non, en tout cas, quand moi, j'avais écouté ce podcast avant de commencer Sens.
D'accord, ouais.
Parce que le thème m'intéressait du double MJ. Et il m'avait donné envie, en plus, de jouer à Sens. Et j'ai eu l'occasion, aux Utopiales à Nantes, il y a un an, de les rencontrer et de faire une partie de Sens avec eux. Donc, on avait fait l'initiation de convention de Sens, qui n'est pas un scénario de la campagne,
d'accord,
mais qui permet de voir différents...
Et c'était pas Akina que vous aviez fait?
Non, je crois pas.
D'accord, ok. Parce que dans Akina, juste rapidement, c'est ça, en fait, on vit... parmi vous, parmi l'équipe des PJ, en fait, au départ, il y a un PJ en plus, un cinquième PJ, et lui, on va apprendre au moment où on remet l'armure réplioïde au bug, que lui, bah, il fait pas réagir à la fusionnite et qu'il n'en est pas un. Et donc, c'est le but du scénar... Bon, je vous en dis peut-être pas plus, puis même s'il y a des auditeurs qui veulent le faire, voilà. Mais... Donc ça me fait vraiment beaucoup penser à ton personnage pour le coup, Julien. Parce que...
oui, effectivement, mais non, on n'avait pas joué ça, on avait joué la remise de la Philonite, tout ça, mais pas de background antérieur.
D'accord. Antoine, ton personnage?
Alors moi, mon personnage s'appelle Ridger, c'est un bug aussi, comme les autres. C'est un musicien plutôt orienté rock and roll et guitare électrique, un peu mal dans sa peau, qui sait pas trop où il en est, pourquoi il fait ça, et qui cherche un petit peu justement du sens à son existence. Il faut savoir que aussi le personnage du frère de Julien a un lien avec chacun de nos personnages, et il s'avère que le frère, le perso du frère de Julien,
de Kérissane,
me fournit de la drogue.
Ça commence bien. Et on a drogue carrément. T'écoutes du métal, t'as pas peur?
J'écoute du métal et je suis mal dans ma
avec
peau.
Avec ce qui se passe.
Drogue and rock'n'roll.
Ouais. Audrey.
Alors moi, mon personnage s'appelle Lexa. Bien évidemment, c'est aussi une bug. Alors Lexa, elle a depuis longtemps, ce qui la caractérise, c'est une affinité avec les ombres. Donc elle aime bien se cacher, observer les autres, etc. Elle a développé vraiment des talents là-dessus. Elle est aussi un petit peu perturbée. Elle aime beaucoup vivre sur le fil du rasoir. C'est peut-être un petit peu ce qu'elle aurait en commun avec Ridger.
Ridger.
Ouais. Ça lui donne en fait l'impression de ressentir des choses et de vivre vraiment. Parce que depuis les événements effectivement tragiques à la Nouvelle-York, elle est un peu, disons qu'elle a du mal à éprouver des choses pour les gens qui l'entourent, y compris les membres de sa cellule. C'est pour ça qu'elle est assez étonnée d'avoir développé un pouvoir sur l'empathie dernièrement, et du coup ça n'améliore pas ses humeurs changeantes. Et elle est sinon complètement obsédée par les vestiges du passé.
D'accord.
Parce qu'elle pense que c'est là-dedans qu'on trouvera les clés de l'avenir. Voilà. Et le lien qu'elle a avec Charlie, le frère de Kérissane, c'est qu'en fait, c'est son indique. Donc à chaque fois qu'elle essaye de se faire la malle de la base militaire pour vivre des aventures en solo, elle lui demande des plans, elle lui demande de détourner l'attention de certains gardes, etc., pour se faire la malle. Évidemment, souvent, elle se fout un peu dans la merde.
Voilà. Ce que je trouve fascinant, c'est que c'est vrai qu'on dit, de temps que Amir prenne son micro, on dit souvent que on a prévu en tout cas que ces podcasts soient faits pour les joueurs. Mais en tant que meneur, je pense que même les meneurs de sens qui nous écoutent peuvent suivre ces podcasts avec attention et s'apercevoir à quel point les joueurs, un peu de façon inconsciente, font des personnages qui collent tellement avec ce qu'ils vont vivre. Je n'en dis pas plus. Amir.
Eh bien, je joue donc Milan Arques, donc un bug comme tout le monde, qui est passionné d'histoire ancienne, un peu comme Lexad. On s'est d'ailleurs souvent retrouvé dans notre jeunesse à faire des expéditions à l'extérieur pour trouver des vestiges anciens. Il est assez proche des deux femmes, Kerisan et Lexa. Pour des raisons différentes, il admire, mais trouve Lexa. Elle prend beaucoup trop de risques à son goût. Milan est quelqu'un de beaucoup plus réfléchi. Et il craint toujours pour les autres. Il ne craint pas pour tellement la mort, sa mort à lui, mais il craint beaucoup les risques pour les autres, les conséquences de.
Il est protecteur.
Il est un peu protecteur. Ouais.
Et je trouve que Antoine. Milan est celui aussi qui est le personnage qui a le plus de recul sur la situation, qui prend systématiquement de la hauteur, qui va essayer d'être celui qui va être le plus pragmatique pendant que. Le personnage d'Audrey et le mien sont beaucoup plus tête brûlée et dans l'impulsion. Quoi. Ouais.
En effet, j'essaie d'être. Je me mets à distance, j'écoute plus que je ne parle et j'essaie d'être l'analyste un petit peu.
Alors justement, il y a un premier point qui avait soulevé, on va dire, quelques débats, quelques difficultés, ou en tout cas quelques intérêts. C'était le choix du commandant, souvenez-vous. Alors, comment est-ce que vous avez choisi votre commandant? Qui est commandant? Comment est-ce que vous l'avez choisi? Antoine?
Par dépit, on l'a choisi. Moi, mon personnage est quand même un personnage qui est plutôt charismatique. C'est un personnage qui fait de la scène, qui est mis dans la lumière. C'est un personnage qu'on voit. Et,
je rappelle, un Ridger, le métalleux.
Musicien. Et donc, je pense aussi que c'est pour ça qu'il a été mis en avant. Il a été mis en avant aussi...
Donc, c'est toi qui as... écopé du rôle de commandant.
Ouais.
Et
ouais.
Ça, c'est assez surprenant déjà, je trouve. C'est-à-dire que t'as pas un profil. Enfin, moi, pour avoir vu quand même pas mal de tables de sens, t'as pas vraiment le profil du commandant, quoi. Généralement, on aurait plutôt donné ça justement au personnage d'Amir, un personnage plus reculé, plus pragmatique. C'est intéressant, ouais. Je trouve, votre choix.
Mais il y avait aussi le fait qu'il avait un caractère tranché. Parce que typiquement, Kerisan fait aussi un peu de théâtre, donc c'est pas complètement quelque chose, mais elle est très scientifique. Donc pour prendre une décision, il faut trois plombes.
Ouais.
Et elle était.
Comme Amir.
Voilà.
Comme le personnage d'Amir.
Et c'est pour ça qu'avoir des gens d'action qui sont les premiers à réagir et qui sont capables de prendre des décisions dans l'urgence, enfin en tout cas pour Kerisan, c'était une évidence que ce devait être l'un des deux actifs, quoi.
Audrey, tu voulais rajouter
pour Lexa, c'est complètement différent. Son choix se serait porté de toute façon sur Ridger parce qu'elle trouve qu'il est souvent très mélancolique et borderline. Elle se fait du souci pour lui. Et elle s'est dit qu'avoir la responsabilité de notre petite famille, c'était un bon moyen pour l'ancrer dans la réalité et qu'il ne nous file pas dans les doigts trop vite.
C'est-à-dire, en fait, finalement, vous avez mis la personne la plus a priori réfractaire à l'autorité comme autorité. Comme ça, vous vous êtes dit, comme ça, lui au moins, il ne fera pas chier le commandant, ce sera lui le commandant. Et j'ai trouvé ça vachement original.
Vu qu'il est ingérable, autant qu'il gère.
Ouais, c'est bien. C'est une
super d'ailleurs, j'ai des rapports un peu conflictuels avec les PNJ qui représentent l'autorité dans ce sens.
Alors, on peut les citer, hein, Gladius Sword, qui est le président en fait, du Conseil de la Résistance. Et puis, des gens comme Soren Solipsis, peut-être ?
On n'a pas eu trop l'occasion d'avoir de contact.
Non, pas pour l'instant.
Avec Soren, qui a disparu après notre première mission, je crois.
Alors, en fait,
elle est partie.
Après la remise.
Ouais.
Voilà. Elle vous a remise ouais. les reptiloïdes, tout à fait.
Mais elle ne vit pas dans notre base, donc c'est normal, a priori. Par rapport à l'autorité, ce que je voulais dire, c'était également que Milan a préféré effectivement laisser l'autorité à quelqu'un d'action, pour les mêmes raisons que Kerisan. Mais il y a quand même eu quelques conflits également lors de la première mission entre Milan et... Et le reste du groupe, d'ailleurs, de mémoire. Car j'ai du mal avec l'autorité également, et ça peut parfois poser des problèmes sur la façon dont on présente les choses.
Ouais, on a un gros débat à trancher entre nous sur comment on présente les rapports, parce qu'à chaque fin de mission, on est censé remettre un rapport. Et on a un gros problème sur comment est-ce qu'on doit donner ces rapports. est-ce que ces rapports doivent être purement factuels, ce qui est plutôt une position que je défends. Les autres, et en particulier le personnage d'Amir, a une position de dire, enfin tu me couperas si je me trompe, de dire non, il faut qu'on mette aussi dans les rapports ce qu'on pense être les bonnes pistes, par où on doit aller, et les réflexions qu'on a menées au cours de cette enquête.
Amir,
petite précision.
Il faudrait peut-être raconter ce qui s'est passé pendant la première épreuve, peut-être, pour bien comprendre. Parce que vous parlez de ce qui s'est passé au terme de la première épreuve, on est d'accord ?
On est d'accord.
Oui. Donc, rapidement, puisque les joueurs, a priori, qui écoutent ce podcast, ont vécu cette épreuve, puisqu'ils doivent avoir vécu cette épreuve pour l'écouter, on poursuit Wilfried à travers la base du Pôle Sud, parce qu'il écrit des poèmes qui sont susceptibles de mettre en danger les résistants du Pôle Sud, et il faut remettre à la fin un rapport à Gladius Horn sur les agissements de ce Wilfried. Et c'est là que, entre vous, il y a une tension, en fait, de savoir est-ce qu'on met ce qu'on pense de ce personnage vraiment, ou est-ce qu'on met ce que Gladius a envie qu'on mette, finalement, enfin, notre autorité a envie qu'on mette.
Et puis aussi, qui on protège ? Moi, je sais que c'était une thématique centrale pour Kerry, parce qu'il y avait plusieurs enfants qui étaient impliqués, leur famille. Est-ce que le fait qu'il y avait, je crois, à un moment, une arme qui n'aurait pas dû être là, enfin,
le frère de Kerry était impliqué.
Le frère de Kerry était impliqué aussi, puisque.
Exact.
Effectivement, c'est devenu un personnage qui a aussi servi de témoin.
Ouais.
Dans l'affaire, qui a été confronté en direct avec Wilfried. Donc là-dessus, Kerry était pas tant. La question, c'était pas tant l'autorité que qui on protégeait en évitant de tout dire.
En tant que meneur, j'ai choisi de faire en sorte que le frère de Kerry San, hein, donc le personnage de Julien, soit directement concerné par ses poèmes, puisque c'est lui qui les a. Et c'est lui qui est en danger, qui est mis en danger par ses fameux poèmes. C'est vrai, je vous avoue que ça fait quand même plusieurs mois qu'on a joué et j'avais oublié cette dimension. Elle est hyper importante pour expliquer la tension qui s'est passée effectivement à la fin.
Et ça, c'est, enfin, sur une petite parenthèse peut-être, mais ça, c'est une expérience de jeu qui pour moi était très intense, parce que la première fois que je me faisais voler un PNJ de background quasiment par l'intégralité de la table, y compris le meneur de jeu.
Dépossédé plus que volé.
C'était la première fois que tu vivais ça.
C'était alors, la
première. Dans le sens, ce sera monnaie courante. Hein.
D'accord. C'est la première fois que effectivement un PNJ que j'avais créé pour donner un peu de profondeur à mon personnage devenait un PNJ du background des autres personnages et finissait par devenir témoin direct.
Alors dans ce sens, je dirais presque que ça fait partie du contrat social. C'est-à-dire que tu sais que tous les personnages qui ne sont pas des joueurs vont être potentiellement les jouets du meneur de jeu et vont être là pour créer de l'histoire, etc. Mais jamais il ne doit outrepasser ta volonté à toi. C'est-à-dire, après.
Ma volonté à moi, c'est qu'il soit repris, justement.
Ouais, voilà, c'est ça.
Voilà,
on est d'accord.
C'est ça qui.
Et c'est ça qui est un peu sensible dans ce sens, c'est que le meneur de jeu doit toujours être capable de savoir jusqu'où il peut aller avec les PNJ. Et c'est pas toujours évident. Et ça peut poser des problèmes, ça posera peut-être des problèmes au cours de notre campagne, on verra, on en discutera. Audrey.
Pour revenir sur la question des rapports et effectivement à faire à la fin de chaque mission et des tensions que ça a levé à l'intérieur de notre petite cellule, il y avait aussi le fait que mon personnage Lexa, évidemment, comme ses amis, a quelques problèmes avec l'autorité, mais elle a surtout un esprit critique extrêmement développé et qu'elle entretient, et elle n'est pas du tout sûre que ce qu'on lui dit ou que les informations qu'on lui laisse filtrer.
Oui, elle est un peu parano.
Ça, c'est ce que tu dis. soit la réalité, et à la fin de cette première mission, quand justement on apprend qui est Wilfried, etc., ça a fait que renforcer ce sentiment du fait qu'on les envoie en mission, mais qu'on ne leur donne pas toutes les clés, ce qu'elle apprécie très moyennement. Et du coup, elle ne voit pas très bien pourquoi les rapports devraient être aussi complexes possible. Et elle trouve qu'il faut d'abord protéger sa propre unité et que l'information, bah, c'est le pouvoir. Donc, autant garder nos conjectures pour nous-mêmes.
D'accord.
Sachant que nos persos ont quand même été pris en charge intégralement, tel que tu nous l'as décrit dans ce sens, jusqu'au début de la campagne, où on a l'impression du jour au lendemain d'être complètement lâché.
Ouais.
Et
c'est pas le cas.
Que finalement.
Et c'est ça peut-être qui pose problème avec ça. Antoine, excuse-moi de t'interrompre.
Ouais, que finalement, le fait d'être lâché dans la nature comme ça nous rend aussi un peu tout suspect.
Bien sûr. Ouais. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, le fait d'être lâché comme ça, alors que vous savez très bien que vous avez été couvé, ça vous donne l'impression. Mais et si ces épreuves qu'on nous mettait là, c'était pas finalement des situations en réalité augmentée, en RA. Enfin, on est dans des épreuves justement, peut-être pas encore dans l'aventure. Tu voulais ajouter quelque chose avec ça par rapport à ça, Amir, ça.
Je voulais dire que ce qui change un petit peu notre manière de voir, de vivre le jeu aussi, c'est que nos personnages ont différentes affinités avec les membres importants de la résistance.
Ouais.
Certains ont développé des liens presque familiaux. C'est pas le cas de mon personnage.
D'accord.
D'où ouais. Moi, c'est pas papa, maman, quoi.
Quels sont les personnages avec desquels tu te sens proche? Ton personnage se sent proche et inversement. Quels sont les par rapport au commandement?
On va dire Gladius, mais ça s'arrête là.
D'accord. Ouais. Okay.
Parce que c'est lui qui m'a sauvé cette fameuse nuit et les membres de mon unité, éventuellement les autres bugs. C'est pas d'accord. Voilà.
C'est intéressant, hein. On a des tensions déjà qui commencent à poindre. C'est très intéressant. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que vous aviez tranché finalement à la fin?
Alors, juste, je voulais rajouter, parce que tout à l'heure je n'ai pas pu finir.
Excuse-moi.
Pas de souci. La raison également pour laquelle Milan, donc mon personnage, désirait donner un rapport complet, c'était que il souhaitait que l'autorité, donc Gladius, puisque c'était à lui qu'on remettait un rapport, sache exactement ce qui nous avait motivés à chaque fois. C'était pas juste nos hypothèses ou autres, mais c'était...
Pourquoi vous aviez fait telle
action ? Pourquoi on avait fait telle chose et pas telle autre, et nos motivations.
Et c'est vrai qu'effectivement, la manière dont tu décrivais le rapport, moi, ça semblait assez en accord avec ce que Lexa, finalement, pensait de ce qu'était la résistance et ses premières missions. À savoir un test psychologique presque de vos personnages, et du coup toi tu voulais donner tous ces éléments là ou d'autres t'es plus réservé, ne voulais pas forcément livrer tous les pourquoi du comment et garder leurs propres hypothèses pour eux, comme s'il y avait éventuellement parmi les conseils des gens dont il faudrait se méfier. Donc ça c'était un premier point de tension.
Il y avait un point là-dessus, je pense aussi, qui jouait, c'était l'ambiance, on va dire, militaire et avec une forte autorité, généralement de la base du pôle Sud, qui ne nous était pas décrite comme totalitaire, mais avec des dimensions qui pouvaient, pour des raisons de sécurité générale, confiner à ça.
Moi, je ne veux pas mentir. C'est l'état d'urgence permanent
oui,
au pôle Sud.
D'accord.
Voilà. C'est ce que j'allais dire.
Privation des libertés pour plus de sécurité.
C'est ça, exactement.
Ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast.
Un empire fondé sur l'ordre et la sécurité. Voilà, exactement.
Lincoln avait son mot à dire là-dessus, mais bon, on ne le connaît pas, nous, dans le monde.
Et dans la mesure où moi, j'avais l'impression que nos personnages avaient été beaucoup élevés dans l'idée qu'ils avaient une lourde responsabilité qui était d'abord celle d'être libre, donc d'être imprévisible, l'inféodation et l'autorité n'étaient pas forcément du tout une priorité. Et donc, être libre, c'était peut-être commencer à chercher
à se libérer
de la liberté,
même de l'autorité.
Par rapport à l'autorité.
Voilà. Et ça, Alexa a l'air de te rejoindre vraiment là-dessus à fond.
Si, complètement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est battu pendant peut-être une heure sur la question pour au final remettre le rapport et qu'il le brûle.
Moi, j'ai beaucoup rigolé. Je t'avoue que dans l'épreuve, c'est bien écrit que de toute façon, ce rapport ne sera pas conservé.
Gladius le détruit.
Voilà, que Gladius le détruira pour des raisons qui lui sont propre, personnel, puisqu'il est seul à ce moment-là à le faire.
Parce que ça le concerne aussi directement.
Peut-être que ça le concerne en propre, exactement. Amir.
Retirais juste le micro de...
D'accord. comment vous avez traversé cette première épreuve? Découverte de l'univers, acquisition des armures, qu'est-ce qu'on a fait? Visite de l'ombre monde pour la première fois. Alors toi qui tripais autour des ombres, ça t'a...
Ah, moi, ça m'a déclenché énormément de questions.
Vous attendiez à ça que le jeu propose directement d'aller dans l'ombre monde et... Bah toi, Antoine, oui.
Moi, oui.
Voilà. T'avais fait...
Moi, j'étais partie pour tout, donc voilà.
D'accord. Ouais.
C'était bien présenté dans les vidéos d'introduction qui avaient c'était l'existence de cet ombre monde, donc on savait qu'elle allait avoir un impact, mais qu'on pouvait voyager dedans. Pourtant, non, pour le coup, non, ça c'était une découverte.
Alors ça a posé beaucoup de questions à mon personnage, notamment quelle est la valeur de l'ombre monde par rapport au monde qu'on estime être réel. Est-ce que la réalité en est effectivement une? Tout ça a été induit par la découverte de l'ombre monde. Quoi.
Bien sûr. Ouais. Donc déjà, ces questions sur qu'est-ce qui est réel finalement.
Complètement.
C'est plutôt la deuxième partie, je trouve, la deuxième épreuve qui est vraiment violente à ce niveau-là, parce que on l'a beaucoup plus utilisée que dans la deuxième.
On va peut-être passer directement à la deuxième. C'est vrai que la première, c'est plus, on va dire, création des personnages, visite de l'univers, visite guidée à travers la guerre des immortels, hein, et puis les deux vidéos. Création des personnages, ça prend quand même un certain temps. Puis ensuite, une petite épreuve rapidement d'introduction au pôle sud, au fonctionnement de la base. Voilà, il y a très peu de problématiques, on va dire, qui sont abordées au départ, même si.
Il y avait des choix moraux sur lesquels on a été quand même relativement d'accord sur est-ce que le poète doit pouvoir continuer à écrire, est-ce qu'il doit pouvoir continuer à s'exprimer.
C'est intéressant. Vous avez tranché direct, oui.
Nous, on a tranché directement sur la liberté d'expression des gens, même si celle-ci peut être nuisible, mais tout en attirant l'attention des créateurs, en leur disant attention à ce que tu fais, car tes créations peuvent être potentiellement dangereuses.
Bien sûr.
Donc oui, c'est important de créer, mais toute création a un impact et a des conséquences. Et les tiennes sont d'autant plus tragiques qu'elles peuvent mener à la mort. Mais
Kerry,
d'ailleurs, il y a eu des morts.
D'ailleurs, il y a eu des morts. Ouais.
Kerry était moyennement enthousiaste parce qu'elle est plus obsédée par la protection, notamment de son frère qui s'est retrouvé pris aux mains directement avec Wilfried. Donc, elle avait un petit élan protecteur où, bon, elle était moins. Elle était plus sur la sécurité pour le coup.
Elle aurait voulu un peu plus marquer le coup, on va dire.
Voilà, c'est ça.
Amir, puis Audrey.
Et oui, effectivement, pour aller dans le sens de ce que dit Antoine, on a insisté, sans utiliser trop le mot, mais on a insisté sur la notion de responsabilité des créateurs. Ils sont responsables de ce qu'ils transmettent, ils sont libres, tout le monde doit l'être, mais
ça va.
Avec des responsabilités et des conséquences à nos actes.
Très bien.
Je pensais à un moment de roleplay particulier, c'est quand on est allé interroger... hors de la présence de Kerry, son frère Charlie, de manière un peu musclée avec Ryger, c'était un bon moment aussi de roleplay. Et... voilà.
Ouais, c'était intéressant comme passage.
Mais une question aussi intéressante que ça soulève, c'est dans quelle mesure ces questions-là sur notamment la création et la liberté de créer, ce ne sont pas finalement, au-delà de l'avis de nos personnages, ce ne sont pas nos avis qui convergent et sur lesquels on est fondamentalement peut-être d'accord. C'est aussi une question que sens amène à se poser.
Voilà, tout à fait, c'est ça. Sachant que, bien sûr, sur la fiche de personnage, on rappelle, pour ceux qui vraiment débarqueraient d'une autre planète par rapport à Sens, c'est que sur la fiche de personnage, en fait, on trouve deux listes de faits, les faits du cellulis, et les faits de son simulacre. Le cellulis étant le joueur, le simulacre étant le personnage qu'il incarne dans l'univers de Sens. Et donc, évidemment, les frontières sont poreuses, puisque à l'aide de l'immersion, les quantités de points que vous gagnez en étant en fait dans la partie, plus vous êtes dans la partie, plus vous gagnez des points. Moins vous êtes dans la partie, plus vous dissipez, plus vous êtes amené à en perdre. Mais vous pouvez aussi dépenser ces points pour faire jouer vos faits de cellulis et les faire interagir avec l'univers de Sens et les faire débarquer dans la fiction de vos simulacres. Et donc, du coup, ce que tu dis, Antoine, là, c'est ça, c'est que le jeu nous prépare à importer des problématiques personnelles dans l'univers.
Il y a des porosités.
Il y a de la porosité. Voilà, ça. Donc, cette première épreuve est assez à l'image de ça, en interrogeant très bien. Très, très bien, très, très bien.
L'utilisation des faits de cellulis, c'est encore quelque chose avec lequel moi, je sais que je ne suis pas complètement à l'aise.
C'est bien.
Je ne sais pas encore comment les utiliser. Je suis vraiment habitué à jouer vraiment le simulacre.
Pareil.
Au plus. Et ouais. L'idée d'utiliser des points d'immersion pour aller chercher sur du fait de cellulis, je suis souvent un peu gêné. Quoi. Enfin,
alors, à voir aussi que.
Mal à l'aise. Plutôt.
Plus vous accumulez des points d'immersion, plus ça vous offre des bonus dans vos miroirs. c'est-à-dire dans vos runes, dans vos compétences, pour parler peut-être de façon plus claire pour nos auditeurs. Le miroir est composé de 6 runes, donc la vie, la mort, le cosmos, le chaos, la création, le néant. Chacune de ces runes servent à des domaines de compétences. La vie, ça va être pour se protéger, se défendre, protéger la vie, la médecine, etc. La mort, plutôt pour attaquer, pour faire violence, pour intimider. Le cosmos, ça va être plutôt pour la science, pour ranger le monde, hein, pour donner, mettre des étiquettes à la bonne place. L'étiquette aussi, la politesse, des règles, en fait, tout ce qui concerne les règles. Le chaos, la science, ouais, le cosmos. Le chaos, ça va être plutôt, on va dire, les sciences humaines, hein, les connaissances qui portent sur ce qui se meut, ce qui change, hein, en permanence. C'est aussi pour l'investigation, mais la reconnaissance spatiale, voir des éléments dans le chaos du monde que personne ne pourrait voir à part vous. La création, ça va être l'artisanat, l'art, être capable de réparer quelque chose... ou de créer quelque chose de vraiment très innovant. Et le néant, c'est votre capacité à mentir, à vous cacher, à être inapparent, à être transparent, et même à être discret. Et toutes ces runes impliquent aussi des comportements. C'est-à-dire le mec qui a beaucoup en cosmo, ça va être quelqu'un d'assez rigoureux, voire rigoriste, qui va reprendre les gens sur la grammaire. Je sais pas. Enfin, on peut, après, il y a plein de manières de jouer, mais...
Sur les rapports,
par exemple, voilà. En tout cas, voilà, il y a plein de manières de jouer ces runes, mais elles impliquent également un roleplay déterminé. Et à savoir que quand vous jouez ce roleplay à la perfection, c'est-à-dire que lorsque vous jouez votre personnage comme les runes semblent vous inviter à le faire, vous êtes récompensé par des points d'immersion, et ces points d'immersion augmentent chacune de vos runes. C'est-à-dire un point d'immersion vous donne un bonus de plus 1 dans toutes les runes que je viens de citer. Donc, ne pas utiliser son immersion, Julien et Amir, ça peut être aussi une manière de maximiser... et d'être sûr à chaque fois que quand on vous demandera un test, vous aurez les meilleurs résultats possibles. L'utilisation du fait de cellulis, c'est quand vous voulez réussir une action bien précise, vous êtes prêt à sacrifier 2 points, qui vous donnent un bonus dans toutes vos runes d'habitude, mais momentanément pour réussir cette action-là très particulière. Donc c'est une manière de lâcher la pression, en fait.
Mais je pense qu'au fond, la gêne, est-ce que c'est une volonté du joueur ou est-ce que c'est une volonté du personnage ? Est-ce que c'est que le personnage, à ce moment-là, s'éveille à quelque chose d'autre qui vient d'ailleurs et qui l'amène à réaliser quelque chose qui est hors de son champ normal de conscience ou de capacité ? Ou est-ce que c'est une volonté du joueur de passer une épreuve ou de répondre à une question qu'il taraude particulièrement et où il est prêt à sacrifier un petit peu de l'immersion, du groupe pour vaincre une difficulté ?
D'accord, ok. Alors ça, la réponse qui est donnée par la base, c'est que ce sont des faits. On fait jouer un fait de cellulis, donc ça vient de l'extérieur. Et lorsque les gens, ensuite, c'est-à-dire les autres simulacres, vont vous interroger sur ces choses que vous avez faites, généralement, le simulacre sera assez choqué. Genre, quoi ? Vous me dites j'ai fait ça, mais je m'en souviens pas. Enfin, c'est vrai, j'étais vraiment... Après, si... ce qu'on trouve très souvent, c'est que si les faits de cellulis que vous impliquez dans l'action sont discrets, c'est-à-dire, par exemple, mettons... Vous tous, t'es capable apparemment de coder des wikis et des machins, trucs comme ça, donc ça veut dire que tu dois te démerder en informatique, Julien.
Oui, c'est mon métier, oui.
Voilà, à titre personnel, c'est ton métier, mais ton personnage, lui, c'est pas forcément son métier. Bon, là, discrètement, tu vas faire quelque chose sur informatique, pour une fois, ton personnage va réussir à le faire. Ça implique pas des choses très spectaculaires, tu vois. Peut-être même son simulacre se sera pas rendu compte vraiment qu'il vient de faire un truc de fou, tu vois. Là, ça pourra passer. Mais par contre, si tu fais un truc genre ce qu'on avait dit, l'exemple que je cite souvent, c'est les météores de Pégase quand t'es fan des Chevaliers du Zodiac. Là, c'est clair que pour le reste du monde, ça paraîtra choquant et que du coup, tu diras « Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est la réplioïde qui vous permet de faire ça ?» Les simulacres ne savent pas, même si les cellulistes, eux, savent très bien d'où ça provient. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire aussi attention dans le sens à faire la distinction entre son personnage
donc
et son
cellulis. La réponse, c'est que c'est plutôt une décision de joueur, en fait.
Exactement.
Qui va plus qu'une extrême volonté du personnage.
Okay. Tout à fait. Après, en tant que joueur, tu peux vouloir cacher ça discrètement. Tu peux vouloir ne pas nuire à l'immersion tout en le faisant.
Oui, ou au contraire, proposer quelque chose de spectaculaire, parce que c'est intéressant de jouer un personnage qui se pose des questions sur lui-même. Ou que les autres interrogent sur lui-même et auquel il n'a pas réponse.
Alors moi, j'avais une première réflexion à faire sur la première épreuve. Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est le moment de le faire sur la première épreuve. Moi, première épreuve, fin de première épreuve, ma réaction en tant que meneur, c'est extrêmement frustré. j'ai la sensation de ne rien vous avoir dit, etc. Et vous, vous découvrez le jeu, moi je le découvre pas. Et donc je suis là, putain, vraiment cette épreuve, pour moi elle est laborieuse, quoi. En tant que meneur de jeu, je me dis, voilà, c'est pas comme si j'avais fait jouer des cinquantaines de fois, quoi. Moi j'ai fait jouer des tas de fois, donc forcément je suis moins passionné. Et j'espère, en tout cas en tant que meneur, que ça s'est pas trop vu et que vous avez quand même bien trippé le truc. Apparemment ça a l'air d'être le cas, donc je suis content. Mais c'est vrai que, en tant que meneur de sens, moi voilà, comme ça fait très longtemps que je maîtrise ce jeu et tout ça... C'est un peu pénible, en fait, cette première épreuve, parce que tu redis des trucs que tu connais déjà. Et surtout, un truc qui est très, très difficile quand tu es meneur de sens depuis longtemps. Ça, vous vous rendez pas compte, vous, de ça, mais voilà, je le dis pour les joueurs qui nous écoutent. C'est que c'est très difficile de pas baver des secrets sans le faire exprès. Parce que tu en discutes depuis des jours et des jours et des heures avec tes potes MJ ou alors avec tes joueurs qui sont bien au-delà. Et donc, du coup, c'est extrêmement difficile de pas d'un coup lâcher et... Je vois Antoine qui me regarde en souriant et j'ai dû en faire. J'ai dû faire quelques petites erreurs comme ça. Et ça, c'est très très chiant parce que ça veut dire que finalement, sens, c'est difficile d'y jouer plusieurs fois, même en tant que meneur de jeu. On pourrait s'interroger sur la rejouabilité de sens en tant que meneur de jeu. Et je vous jure que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Bon voilà, c'était juste une petite parenthèse. Épreuve 2. Qu'est-ce qu'on fait dans l'épreuve 2 ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un veut raconter la fiction ?
Allez, je me lance.
Allez, Audrey.
Donc Gladius nous fait appeler dans la salle du conseil pendant notre permission pour nous confier une mission urgente et officieuse, qu'il s'agit de se rendre sur une base scientifique dans le pôle Nord pour enquêter sur la disparition de plusieurs personnes et de voir si Viggo Nemeo, qui est le responsable de ce complexe, a poursuivi en fait des recherches sur une arme bactériologique qui viserait à anéantir Séléné et Mars. Voilà.
Recherche non autorisée.
Le conseil a des doutes et voudrait voir si ces doutes sont fondés et puis bien sûr élucider le mystère de ces différentes disparitions.
C'est ça.
Voilà.
Donc, une raison de plus pour douter de ce qu'on remet comme rapport au conseil.
Complètement. Je suis complètement d'accord.
À développer.
C'est-à-dire que potentiellement, le conseil a un doute sur un membre de la résistance. Donc, dans quelle mesure nous, qui menons l'enquête sur le terrain, n'aidons pas des traîtres en donnant trop de détails dans les rapports qu'on remet à Gladius ou aux autres.
Alors les rapports,
c'est bien ce que j'entendais aussi.
Donc qu'on soit bien clair, les rapports, et ça c'est rigolo. C'est vrai, je l'ai pas précisé, mais je pensais que c'était évident. Mais tu vois, ça fait partie aussi des erreurs de les rapports. Il est bien clair que vous les rendez à Gladius et à Soren Solipsis et à, éventuellement à Maria Gridway. C'est-à-dire en gros ceux et celles qui administrent le pôle sud avant. Et après, libre à eux ensuite de les échanger au conseil. Vous savez, je sais, tu fais signe genre, ça on ne savait pas. Mais par exemple, vous saviez du coup, après coup, que Gladius Sword avait des doutes sur l'intégrité de Viggo Nemeo. Vous vous doutez bien que Viggo Nemeo, qui est au pôle Nord, n'a pas forcément accès à toutes les informations de ce qui se passe au pôle Sud. Peut-être même que s'il est isolé là-bas au pôle Nord, c'est qu'il y a peut-être une raison, tu vois. C'est que...
Oui, mais qui a accès au rapport informatiquement, est-ce qu'il n'est pas possible de forcer les sécurités pour y avoir accès? Voilà. Ça pose quand même un certain nombre de problématiques aussi.
Ouais. Donc là, voilà, c'est que vous ne faites pas confiance au système informatique.
Une information qui n'existe pas ne se pirate pas, en fait.
Et vous avez confiance dans vos répluides ? Vous m'amusez beaucoup.
Au-delà de ne pas faire confiance, il y a quand même un point que Audra a soulevé tout à l'heure. C'est-à-dire que... C'était dans quelle mesure on ne participe pas à suivre la mission à la lettre et à rendre les rapports tels quels, on ne participe pas à un certain déterminisme pour lequel on n'est pas fait, car nous sommes des bugs. Et pour lequel, justement, on est censé être imprévisible.
Oui, très bien. Ouais. Alors, cette épreuve 2, quelle sensation vous avez fait ? Moi, la même que l'épreuve 1, personnellement.
Elle était décomposée en deux parties, outre la présentation qu'a fait Audrey. Il y a le voyage, et puis après, il y a une première partie d'enquête qui est interrompue de manière ultra violente.
Un break,
sur une enquête qui commence vraiment pépère, où on se dit bon, alors c'est vraiment pas trop par quelle boule prendre. On commence à utiliser à essayer d'utiliser l'ombre monde pour pouvoir faire des distinctions entre ce qui serait passé, ce qui s'est vraiment passé, et essayer d'en déduire des choses. Qu'est-ce qui est lié à nous, qu'est-ce qui n'est pas lié à nous, et ça. Et puis au milieu, une attaque massive et. Ouais, totalement terrifiante.
Au cours de l'enquête, on a découvert le poteau rose tout de suite, mais trop vite. Ouais. Et ce qui fait qu'on n'avait pas les éléments pour lier la problématique de départ.
En fait, vous découvrez le cadavre de Romuald Crowe, qui est donc le cuisinier personnel de Neméo.
Avant de l'avoir rencontré lui-même dans la réalité.
Ouais. Et là, chose incroyable, c'est-à-dire, enfin, il faut se mettre. Là, je parle surtout aux meneurs de jeu, mais peut-être aussi aux joueurs. Il faut comprendre la situation en tant que meneur de jeu, c'est-à-dire qu'ils découvrent le cadavre de quelqu'un, ils vont manger chez Viggo Nemeo, ce quelqu'un leur sert à manger, et vous ne vous doutez de rien. C'est-à-dire, enfin, c'est bizarre, vous...
Si, mais on est en pleine conjecture, on se dit qu'il a un double, on se dit que...
Ah, d'accord.
Enfin, on est dans les... Moi, j'étais dans les expériences scientifiques, je m'étais dit, bah, ils ont cloné des gens...
Ah ouais, d'accord. C'est moi, dans ma tête...
D'ailleurs, on lui pique du sang, si je me souviens bien. On fait des prélèvements cette personne. Et
sur ce d'ailleurs, cadre-là.
Tout à fait.
Ils ne donneront rien.
Bah non, parce que les prélèvements se volatilisent mystérieusement.
Son sang n'appartient pas à ce monde. Ils subissent le choc. Enfin, le sang subit ce qu'on appelle le choc ontologique.
Mais ça, on ne le savait pas.
Et ça, vous ne le saviez pas. Ça, c'est vachement intéressant. En tant que meneur de jeu, je stressais. Parce que je me dis, cette scène... Ça va être une orgie, quoi. Ils vont le défoncer direct. Ça va être en mode grosse interro. Ça va être.
On n'a rien vu. On s'est fait piéger comme des bleus, quoi.
Si vous aviez fait ça, je sais même pas comment j'aurais pu terminer le scénario, parce que rien n'est prévu pour que les joueurs finalement découvrent très très vite, si rapidement que ça, le poteau rose. Donc, c'était intéressant. Et finalement, cette tension, elle était bien vécue et c'était intéressant.
On en était arrivé à la conclusion que l'un des personnages avait été remplacé, les autres avaient disparu.
Ouais.
On ne pouvait pas en déduire de fait qu'il fallait attaquer à vue. Quoi. On était invités, on était à la table du commandant, on nous avait dit de le prendre avec des pincettes. En fait,
C'est une base où il y a 50 000 personnes aussi. C'est-à-dire que le commandant, il n'est pas tout seul.
Enfin,
si on se fait le commandant, il nous reste 49 000... 999 personnes sur le dos, donc potentiellement.
En tout cas, tu vois, ça a mis du piment à cette épreuve. Et bah, tu vois, on parlait tout à l'heure des conseils aux meneurs. Et bah voilà, en voilà un par exemple qu'on pourrait donner là, s'il y a un meneur de jeu qui nous écoute. Faites-vous plaisir, tentez cette expérience de faire découvrir le cadavre de Romuald Crowe avant que les joueurs n'aillent dîner chez Nemeo. Faites-le. Et vous verrez le résultat. Bah, nous, on l'a vu, bah, c'est pas mal en fait, ça crée une certaine tension.
C'était très chouette.
Et voilà, ben voilà. Vous voyez une révélation. Et à nouveau, là, si on l'apprend avant ou après, voilà. C'est voilà un exemple. Voilà, ça nous fait un exemple magnifique. Alors, au terme de cette épreuve, moi, je commence à tomber malade. Je tombe. Alors, prenez le relais là. Au terme de cette épreuve, quelles étaient vos théories? Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette épreuve de bouleversant?
Ce qu'on avait appris de bouleversant, c'est déjà que la fin de l'épreuve est assez terrifiante, parce qu'on va de scènes atroces avec des gens à moitié pris dans les murs, en découverte qu'il n'y a pas un quadrilla mais deux.
C'est
sûr, ouais.
Que, alors je me souviens plus de son nom, mais il y a le professeur fou là, qui en plus a une arme qui est extrêmement conséquente et qui fait du massacre. C'est pas un bazooka, mais c'est quelque chose.
Je l'ai récupéré l'arme.
Ouais, donc moi j'ai vu les différentes couches de Maurice Pluet passer très très vite, descendre très très vite. Kerry a été la principale attaquée, si je me souviens bien, parce que l'objectif c'était bien de faire sauter sa défense. Ça a été un épisode particulièrement traumatisant pour elle qui se positionnait plutôt en protectrice du groupe.
D'accord.
De se retrouver la cible centrale.
C'est intéressant. Ouais.
Elle n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir.
Et t'as chopé une malédiction, accessoirement.
Voilà. Et après, sur le retour, on a découvert que j'avais chopé une malédiction, ce qui a encore posé un certain nombre de questions que j'ai dû, sur lesquelles j'ai plutôt travaillé après.
En dehors de la partie.
En dehors de la partie, parce qu'en tant que joueur, je ne savais pas quoi en faire. Je finis à peu près par résoudre le problème en me posant la question en tant que perso. Mais...
D'accord, c'est ouais. Intéressant. Amir, j'ai hâte d'entendre ta réponse, Julien. Amir, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, ben, du point de vue de Milan, effectivement, le combat a été très rapide. Milan n'est pas un combattant, c'est un scientifique. Il voulait protéger le monde, mais le temps qu'il prenne de la distance et qu'il essaie de comprendre les choses... Kerry, enfin la reptiloïde de Kerry était déjà quasiment HS, et donc il n'a quasiment pas agi. Et c'est là, déjà un peu dans la première épreuve, mais surtout dans cette deuxième, il a acquis le sens de la responsabilité qu'il a en tant que bug de une partie du monde. L'avenir du monde repose sur leurs épaules, pas seulement les siennes, mais leurs épaules à tous. Et sinon, ça a été assez enrichissant. Il s'est posé énormément de questions, enfin, il s'en pose toujours, sur la nature de l'ombre. Donc, effectivement, comme le disait tout à l'heure Antoine, ma théorie, enfin, la théorie de Milan, c'est plutôt que l'ombre-monde est totalement informatisé et incomplet.
D'accord.
En particulier. Une question qu'il avait posée à Soren au début, c'est que, sans avoir de réponse définitive, c'est qu'effectivement, il n'y a qu'une ou deux runes, je ne sais plus.
Cosmo.
Voilà. Cosmo et Rebirth. Il manque des runes à cet ombre-monde. Donc il y a forcément...
Ce qui pourra en expliquer justement les imperfections, les bugs.
Les bugs et les malédictions. Et voilà. Mais on ne comprend pas tout ça encore. Ouais. C'est juste des théories.
Ça posait aussi la question de la nature des Kadrias. Outre que c'était un choc violent pour Kerry-san, qui s'est fixé un peu comme objectif dans la vie de venger ses parents, et qui s'est aperçu que bah, en fait, les Kadrias ils étaient vraiment forts et qu'il ne suffisait pas d'avoir reçu une respiroïde pour pouvoir faire face comme ça. Elle qui est devenue scientifique pour essayer de trouver une réponse, même si quand même on a réussi à faire certains trucs. Et puis ils ont eu quand même deux phrases qui sont restées, qui sont si je me souviens bien, ce qui n'est jamais né ne peut mourir.
Qui n'est jamais né ne peut mourir. Voilà. Et je t'attendrai à la nouvelle York, voleur de vie.
Donc il y a voleur de vie, donc ça veut dire qu'il se positionne. En plus on voit bien qu'il y a une similitude, puisque les bugs n'ont pas d'ombre et les Kadrias ne semblent pas avoir d'équivalent réel, en tout cas dans ce qu'on en a perçu jusqu'à présent. Donc il y a une espèce d'effet de miroir.
Tiens non. Vous voyez, c'est ça le rôle d'un meneur de sens. Vous me disiez, mais toi, en fait, tu vas rien dire pendant ce podcast. Je dis, si, vous voyez, je rigole. Je dis, ah, tiens, un miroir, tiens donc. Je rigole et puis ça me fait rire, c'est tout. C'est ça le rôle d'un meneur de jeu de sens. C'est de rire quand...
D'ailleurs, sur notre wiki, on s'est fait une section brainstorming pour lister toutes les questions auxquelles on n'avait pas de réponse.
Ah, c'est trop cool.
Il y en a plein. Moi, j'en ai plein.
Est-ce que vous... Et là, je pense que c'est le bon moment justement pour commencer un peu à aborder vos théories. Alors, au terme de ces épreuves, qu'est-ce qui vous fait réfléchir? Qu'est-ce qui vous fait triper? Est-ce que ça concerne plutôt vos personnages et leurs réactions par rapport au monde? Ou est-ce que ça concerne plutôt le monde lui-même? Voire les deux? Voilà. Alors, qui veut commencer sur les théories des... Parce que c'est ce qui est le plus rigolo, en fait.
Alors, moi, je vais commencer... Pour l'instant, les personnages, je trouve qu'ils n'ont pas été... ils ont été un peu secoués, mais globalement, il n'y a pas eu de grands défis à trancher. Notre plus grand point de blocage ayant été les fameux rapports dont on a parlé. Aujourd'hui, on n'est pas sur des questions fondamentales, je dirais, en termes de personnages. Par contre...
La maladie de Kerry-san, pour le coup, lui pose des problèmes existentiels assez violents.
Voilà, c'est ça.
Ça va le devenir, mais c'était à la toute fin de la partie.
Et je veux dire, c'est un petit peu ce qui rend en fait les premières épreuves un peu chiantes quand t'es meneur de jeu. C'est qu'en fait, c'était beaucoup dans la parole. Tu parles énormément, tu dis beaucoup. Ce qui est, et tu profites pas beaucoup en fait de ce qui se passe. Enfin, je sais pas si vous avez déjà tous été meneurs de jeu autour de cette table là. Ouais, ok. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Du coup, y a un côté dans les premières épreuves où on décrit beaucoup, parce que faut dire beaucoup aux joueurs pour les nourrir en fait, pour nourrir leur personnage, les canons esthétiques, on va dire, attendus par le jeu.
Faut poser la scène, quoi.
Ben, c'est ça. Et après, on va dire, les joueurs prennent de plus en plus le relais, Et là, pour l'instant, ce que vous êtes en train de dire, finalement, c'est ça, c'est que donc, vous sentez que le relais vous est donné.
Ce qui nous intéresse, enfin ce qui nous a posé beaucoup de problématiques sur le début, c'est surtout les problématiques d'univers. Donc quel univers on évolue et qu'est-ce qu'on a à découvrir dans cet univers. Donc on a parlé de l'ombre monde et Amir a évoqué les théories sur les runes. Moi j'en avais une autre sur est-ce que l'ombre monde n'est finalement pas qu'une autre facette de la même réalité.
Ça vous l'avez fait notamment au moment où vous avez reçu vos armures et où vous avez cette scène avec Solipsis où donc on vous montre un petit peu quels sont les pouvoirs dont vous disposez avec les reptiloïdes et c'est là que vous avez posé plein de questions. Audrey, tu voulais ajouter quelque chose à ce sujet?
Moi, ce qui m'a fait plutôt réfléchir, c'était les liens entre les bugs et les quadrias, parce qu'on sait que ces liens sont forts. Les quadrias, effectivement, n'ont pas de reflets dans le monde réel, les bugs dans le monde des ombres, comme on l'a déjà dit. À un moment donné aussi.
Sommes-nous des quadrias pour le monde des ombres ?
Ouais, à un moment donné, on sait aussi que quand on passe trop de temps dans le monde des ombres, on finit par attirer les quadrias.
Exact, ouais.
Et peut-être pas n'importe quel quadria. Moi, je me demande si un bug ne correspond pas à un quadria particulier.
Y a-t-il une unité chez les quadrias ?
Manifestement, ils sont pas si différents que nous. C'est-à-dire qu'ils ont des psychologies, ils ont des rôles différents. On l'a vu dans les rapports entre Graveur et l'autre quadria qui nous a attaqués. Ensuite, ils auraient très bien pu tuer Kiri et ils l'ont pas fait. Ils veulent nous attirer ailleurs.
Ouais.
Donc je me demande bien pourquoi et je me demande bien ce qu'on va trouver à Nouvelle-York. Mais
voilà. Ça tombe bien, Dion.
C'est bah oui, ça tombe bien. C'est une belle transition. Hein.
C'est pour ça qu'on
belle
est
transition.
Là.
Toi, tu dis une unité, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par une unité ?
Est-ce qu'il y aurait des dissidents
c'est ça.
Ouais. Parmi les quadrias.
D'accord.
Ouais. Est-ce que tous les quadrias marchent dans la même direction,
pensent
la même chose, ou est-ce que il peut y avoir sécession chez quadrias et que des quadrias gentils, des quadrias méchants.
C'est ce que j'appelle les différences de psychologie, ouais.
D'accord.
Entre les quadrias.
Et puis, puisqu'ils ont participé, en tout cas, à la guerre de Miphos, à quel point ils lui obéissent.
Ouais. Donc autour des quadrias, beaucoup de questions déjà. On sent que c'est vraiment le point de mire là, ça y est. C'est...
On est plusieurs à avoir centré notre background sur le fait qu'on avait vu nos parents massacrés par les quadrias et que ça avait structuré une partie de notre psychologie.
D'accord. Amir ?
Oui, je voulais juste ajouter sur le d'un point de vue plus terre-à-terre que les théories qu'on se fixe. qui sont réelles, qui sont importantes.
Elles font partie du jeu. Donc elles font partie de la réalité du jeu.
C'est primordial.
En fait. Ouais.
Mais la deuxième épreuve, à la fin, on se retrouve tout de même avec une urgence qui est, a priori, il y a eu un traître à la base nord, Néméo. On ne sait pas quel secret il a pu révéler au quadria. Et on doit avertir le pôle sud en quatrième vitesse. Éventuellement évacuer la base, etc. Et ça, c'est également très bouleversant.
Ouais.
Très fort comme émotion pour quelqu'un de protecteur comme.
Est-ce qu'il a révélé des informations susceptibles de vous localiser, etc.
Et s'il a révélé la position de la base sud, eh bien, ça veut dire que tout ce qui nous a servi de foyer depuis la mort de nos parents, c'est fini, quoi.
C'est fini.
Tout à fait.
Ça, c'est intéressant. Hein. Très intéressant. D'autres théories ? Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous sortent
Il y a la thématique dont on a déjà parlé, qui est de quelle confiance peut-on, nous, bug, donc conditionner, entre guillemets, à être libre.
Ouais. Accorder un conseil qui détermine des missions très dirigistes.
Est-ce qu'en nous reposant pas sur ceux qui ne le sont pas, on ne se retrouve pas à nouveau dans le programme et dans la causalité et tout ça, et donc à quel point est-ce qu'il est de notre devoir d'échapper à l'autorité.
Ouais, ça va,
le point de vue de Lexa, c'est qu'on joue tous un rôle et qu'on est tous manipulés et que le but du jeu, c'est de savoir qui tire les ficelles.
Tu disais donc qu'elle n'était pas paranoïaque, c'est bien ça.
C'est ça.
C'est ça.
En même temps, dans notre groupe de Mickey, il faut bien qu'il y en ait une. Hein.
Et puis moi, j'ai une autre problématique qui est beaucoup plus personnelle pour mon personnage. C'est une problématique sur le temps qui passe. parce que mon personnage s'est révélé être capable de voyager dans des souvenirs à travers les œuvres d'art qui étaient créées.
Ouais.
C'est une fonctionnalité de ma reptiloïde.
C'est fabuleux.
Et donc.
C'est-à-dire qu'en fait, attends, tu peux décrire un petit peu mieux pour nos éditeurs et
alors,
qui nous écoutent. C'est-à-dire, tu prends une œuvre d'art, tu la touches.
Et je peux estimer l'intention qui a été mise dans cette œuvre d'art.
D'accord.
L'intention de l'auteur. C'est-à-dire que même sans.
T'as pas écrit un livre là-dessus, toi ?
Non. Non, ben, non,
non. Non, jamais ?
Non, non.
Tu serais pas Antoine Laroche, l'auteur de. Non ? Non, tu veux pas nous en parler un petit peu parce que c'est un truc qui t'intéresse en fait, à titre personnel. Ça, c'est ton simulacre, mais c'est aussi Ulysse qui s'intéresse à ce genre de choses, non ?
C'est quelque chose, c'est effectivement quelque chose qui m'intéresse d'avoir. Enfin, j'ai un peu travaillé sur les intentions de l'auteur. J'ai sorti un livre, mais qui est plutôt un livre pour enfants, mais qui pour adolescents.
Ouais.
Qui est là pour poser les questions. C'est un livre qui porte sur la fabrication du premier katana,
ouais,
au Japon, dans un Japon médiéval fantasmé. Et pour lequel.
C'est pour les enfants, mais les adultes peuvent le lire. Moi, je l'ai lu, c'est très bien pour les adultes aussi. Hein. Enfin,
et donc, l'idée, c'était de dire on fabrique une arme, mais quelle est l'intention qu'on met derrière cette arme ? Et pourquoi, quand on crée le katana, qui est la meilleure lame de l'ensemble d'un royaume et qui est capable de tuer en un coup, quelle est l'intention derrière de son créateur aussi ?
Tu peux dire le titre du livre pour que
ça s'appelle le Yusuke, le forgeron.
Le forgeron. Je croyais que c'était le maître forgeron.
Non, c'est juste
c'est le forgeron. D'accord. Yusuke, le forgeron. C'est ça ?
C'est ça, c'est ça.
D'accord. Je croyais que c'était le maître forgeron. Putain, je me suis planté. J'ai dû conseiller ton livre en l'appelant le maître forgeron plusieurs fois, je crois. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais donc voilà, et ton personnage peut justement faire ça. C'est-à-dire, il pourrait prendre. Le katana, le premier katana, et finalement écrire ton livre en sentant en fait toutes les émotions qui ont guidé cet objet, la réalisation de cet objet en fait. Et,
donc ça passe beaucoup par le passif des personnages, des gens qui l'écrivent, des gens qui créent, mm-hmm. Et donc ça m'amène à voyager dans les. Alors c'est pas tout à fait des souvenirs parce que c'est beaucoup plus personnel que ça, parce qu'un souvenir peut être factuel. Mais il est très souvent déformé par nos émotions.
Ouais.
Et quelque chose qui pourrait paraître anodin pour une personne va être extrêmement importante et extrêmement.
Je me marre, Antoine, je me marre. Je pense que les MJ derrière leur casque doivent bien rigoler. C'est génial en tout cas que tu aies donné ce pouvoir à ta répioïde.
Ça a permis notamment une belle scène de flashback extrêmement complète qui nous a permis de remonter au temps de l'ancienne Nouvelle-York où on a vu apparaître des choses très étranges qui touchaient à des questions de cellulis même, puisqu'il y avait des auteurs contemporains qui étaient cités. Sans aller plus loin, je sais pas si.
Il y a des choses qui sont dites dans l'épreuve zéro. On peut peut-être s'arrêter là pour laisser un peu de suspense.
Voilà.
On ne sait jamais. Est-ce que vous voulez aborder d'autres problématiques ? Est-ce que d'autres problématiques ont surgi ou est-ce qu'on peut s'arrêter là ? Est-ce que vous avez vraiment tellement hâte de continuer que. Ouais, d'accord, ok.
Moi, il y a deux. Alors, c'est des problématiques plus mineures, mais c'est effectivement des problématiques où je cherche à réancrer mon personnage dans le background, dans les PNJ, dans les choses comme ça, et où je peine un peu à trouver qu'est-ce qui fait. Qu'est-ce qui fait la dimension émotive et sentimentale du personnage ? Je suis à la recherche de qu'est-ce qui lie le groupe. On est censé avoir grandi ensemble, mais là-dessus, comme on est rentré très vite dans l'aventure, je suis à la recherche de quelque chose. On voit que le personnage du frère de Kerry, Charlie, a permis de faire une première unité, mais j'ai encore du mal à vraiment imaginer ce que Kerry pense des autres membres du groupe au-delà du comportement que je les ai vus avoir.
D'accord.
Et moi, ma crainte, c'est quand même l'opposition des personnages entre eux sur le groupe et pouvoir conserver. Qu'est-ce qui fera qu'on conservera une unité sur un désaccord profond ?
Ouais.
Ouais, moi, ça, c'est pas une crainte, c'est plutôt presque un espoir. Parce que je crois pas du tout que les enfin,
ouais, ce sera une situation intéressante à jouer, en tout cas.
Ouais, tout à fait. Mais bon, voilà. Le jeu prévoit certaines choses. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu souvent tendance pendant la première épreuve à vous rappeler que vous aviez grandi ensemble de façon un peu artificielle, en fait. Et je pense que c'est des choses qui vont venir à force de disputer, en fait, des épreuves. Julien, tu vas voir, ça va venir, ça va étoffer.
Mais je réfléchissais au fait que sur le système, entre deux épreuves, on a la possibilité d'ajouter des nouveaux faits de cellulis. Des simulacres.
Bien sûr.
Et je me posais la question, à quel point ce serait pas pertinent d'aller sur des faits de simulacres antérieurs.
D'accord. Ouais.
C'est-à-dire d'enrichir un petit peu, parce que là j'ai accroché avec tel personnage, que c'était peut-être pas la première fois qu'on accrochait ensemble, des choses comme ça.
Alors d'avis de joueur, il y a trop de faits de simulacres qui sont distribués. Donc n'hésitez pas à vous dire bon bah allez, on se fait un effort. À la fin de chaque épreuve, on se met au moins un ou deux faits de simulacre chacun qui concernent le passé de nos personnages entre eux, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible.
Tu disais qu'il n'y avait pas assez ou trop ?
Il y en a trop. Pardon, j'ai dit pas assez.
Non,
je suis désolé. Il y en a trop, justement. Enfin, il n'y a pas assez d'occasions d'en mettre. D'accord. Voilà ce qu'ils disent, en fait. Ils disent, en fait, tu donnes beaucoup trop de faits de simulacre par rapport aux occasions, en fait, d'en rajouter. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà.
Sachant qu'on l'a pas dit au début, Antoine. Mais on n'est pas une table habituelle. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on joue tous les quatre ensemble à un même jeu en tant que joueur.
Ah, c'est intéressant ça. D'accord.
Donc déjà, on n'a pas une dynamique de groupe.
Attends.
Que...
Chacun d'entre vous maîtrise aux autres, mais vous n'avez jamais joué ensemble, c'est ça?
Alors, j'ai joué, Julien a joué avec Antoine.
Ouais.
Julien, Audrey et Amir ont joué ensemble beaucoup.
Beaucoup.
En se masterisant à peu près tous, oui.
Ouais, on n'a pas beaucoup joué, très peu joué tous les trois avec un autre MJ.
Ah, d'accord. Ouais.
À part.
Vivian, Manuel. Enfin. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup masterisé Amir et Audrey. Amir m'a beaucoup masterisé. Et enfin, donc on a un gros background là,
d'accord,
mais c'est la première fois qu'on joue tous les trois avec Antoine.
C'est
et
génial.
Je crois qu'on avait jamais. Ouais, j'étais le seul à avoir déjà joué avec Antoine auparavant.
Cool. Ok, d'accord. Donc c'est aussi une table en création. Il n'y a pas non plus des vieilles routines.
Absolument pas.
Et ça, on va voir. Ça peut être très intéressant pour
ça. Ça a beaucoup joué. Ouais. Ça a beaucoup joué, je trouve, dans la qualité de la première série d'épreuves, parce que moi j'ai pris un vrai plaisir. Alors tu mettrais peut-être d'autres mots, mais à voir, il y avait des moments où on était tous en train de gratter sur nos feuilles de personnages,
ouais,
nos faits de simulacres, et on était vraiment hyper attentifs aux propositions des autres.
Des autres.
Ouais. Et donc il y avait une espèce de création collective très intense, très concentrée, qui était très agréable.
Le système le veut, ça, hein, puisque chacun d'entre vous doit lire ses faits de simulacres aux autres, et la création doit être collective, hein, doit se faire collectivement. C'est intéressant tout ce que vous dites là. Je me demande si je vais peut-être, vu ce que vous allez être très très prolixe en termes de faits et tout ça, que vous avez vraiment envie de vous investir à fond de cette manière-là, en tout cas dans votre groupe, je vais peut-être vous donner plus de faits de simulacres, justement, on verra. C'est intéressant. D'autres choses à ajouter avant de clore ce podcast et d'aller jouer? On va peut-être pas jouer ce soir, parce que comme vous pouvez le constater, chers auditeurs, je suis en train de mourir un petit peu. Je fonds complètement. L'hiver arrive.
Gravé sur le mur de la grotte, il y a un gros « Ah !»
Ouais, c'est ça. L'hiver arrive et avec ses microbes, c'est ici, ça y est, il a commencé à pleuvoir. Alors qu'il ne pleut jamais d'habitude.
Ah, Saint-Malo, c'est bien connu.
Mais non, il ne pleut jamais. Non, attends, je te jure, depuis ça fait plusieurs années qu'on fête mon anniversaire, qui est le 2 octobre, devant un barbecue. C'est incroyable, comme le réchauffement climatique, c'est ici.
Il vient de vous donner sa date d'anniversaire pour lui envoyer des cadeaux pour l'année prochaine.
Évidemment, du whisky comme Stéphane l'année dernière, évidemment. je bois pas de whisky. Mais voilà, enfin, c'est pour dire qu'il fait de plus en plus chaud ici. Et là, ça y est, l'hiver arrive et forcément, la crève arrive aussi. Et voilà.
Moi, je t'ai amené de la cuvée des elfes, j'espère que tu aimeras.
Ouais, j'adore ça. J'aime bien la bière. J'aime bien l'alcool qui n'est pas trop fort, en fait. J'aime bien le cidre, j'aime bien la bière, j'aime bien ce genre de trucs. Je faisais des fûts de Fischer quand j'étais gamin. Enfin, quand j'étais gamin, quand j'étais au lycée. Mais sinon, ouais, non, mais je vous ai pas posé ma question troll. J'avais une question troll à poser. Je l'ai pas posée. Ça vous fait quoi de jouer des terroristes après tout ce qui s'est passé là, ces derniers temps? Parce que, en fait, dans le sens, vous jouez des terroristes, vous en avez conscience quand même. C'est Olivier Sten qui dit ça par rapport à ça. Pour recaler le.
Des Robin des Bois.
Certains d'entre vous.
Pour l'instant, on a empêché les enfants de se suicider. On a demandé à un poète de garder les textes les plus durs pour un public averti. Et on s'est fait massacrer face à des terroristes qui, pour le coup, eux, ont massacré une base en entier en claquant dans le doigt. On ne s'est pas senti très destructeur. Mon très faible score de mort, pour l'instant, ne m'a pas trop gêné.
D'accord, très bien. Et voilà, c'est un peu le troll, parce qu'en fait, dans un sens, il y a une erreur d'écriture assez énorme, qui est que l'Empire parle des résistants, comme des résistants. Et Olivier Sten...
C'est con, ça.
Ah oui, c'est con, et comme dit Audrey, le dieu en dehors des micros, elle dit c'est con. C'est bon. Ah non, c'est bon, t'as dit. Ah, j'ai entendu c'est con. Mais moi, je trouve ça con. Moi. Je veux dire, avec le recul, je trouve ça très con. Parce qu'effectivement, c'est vrai que techniquement, si j'étais un impérial... Je dirais pas que ce sont des résistants, je dirais que ce sont des terroristes.
D'ailleurs, il y a un podcast très intéressant sur la cellule qui traite du terrorisme.
Un podcast qui n'a jamais été autant d'actualité.
Qui traite pas forcément que de jeux de rôle, mais qui est passionnant sur qu'est-ce qu'on met derrière le terme de terroriste et qui met quoi.
Olivier a une haine de ces mots qui nous interdisent de penser, en fait. Et moi, c'est ce qui me gêne un petit peu par rapport à l'actualité de ces dernières semaines. C'est que en fait on utilise le mot terroriste à tout va et sans s'interroger vraiment sur qui est l'ennemi, en fait. C'est ça qui est vraiment l'ennemi, qui est le terroriste dont on parle. C'est bien gentil, on est tous, oui évidemment, on est tous contre le terrorisme, mais est-ce qu'on est tous forcément contre X ou Y? Enfin voilà, et ça, là à mon avis ça fait beaucoup plus débat. Bon, en l'occurrence là, évidemment, vu la barbarie...
Là, il n'y avait pas de débat.
Voilà, il n'y avait pas de débat. Mais tu vois, justement, en fait, c'est un des moments où il n'y a pas de débat, où l'émotion submerge, qu'il faut être très, très attentif à chacun d'entre nous et faire attention à ce qui est dit et comment c'est dit,
pour éviter les amalgames. En ce qui me concerne, il n'y a pas de débat, effectivement, sur la barbarie qui a été commise, sur les causes lointaines qui ont amené ça.
Là, il y en a du débat. Ouais,
là, il y a du débat et beaucoup de travail à faire, à mon avis. Mais ça...
Ouais. Bah, par exemple, un truc qui m'interroge là-dessus, c'est jusqu'où est-ce que notre système capitaliste libéral, un peu désenchanté, en fait, ne pousse pas aussi à certaines radicalisations. Je ne parle même pas de forcément la radicalisation du côté de l'islam, mais à toute radicalisation, je veux dire.
Le désespoir.
Le désespoir, ouais, voilà, c'est ça. C'est donc,
certaines personnes décrivent l'ultralibéralisme comme une forme de troisième guerre mondiale, avec des effets collatéraux, des guerres locales, et des gens qui, pour des questions économiques, se retrouvent dans des situations de survie, ou plutôt de non-survie.
Donc voilà, moi ça me, en tout cas, ces derniers événements me font peur. Non pas les événements eux-mêmes, parce que moi je suis pas effrayé comme j'entends parfois certaines personnes qui regardent un petit peu trop la télévision. À mon avis, je suis pas non plus effrayé. Pour autant, ce dont j'ai peur, c'est de la radicalisation de ma propre nation, en fait, la radicalisation des gens, des Français, en fait, pas la radicalisation.
En réaction.
Voilà, la réaction, ouais, c'est ça. Et ça, par contre, oui, ça, j'ai peur. Beaucoup plus peur de ça que de dire.
Je ne sais plus quel journal titrait pour la première guerre du Golfe, je crois. La guerre pète, la télé pue, mais il y a un peu ça après les grands mouvements.
C'était Charlie Hebdo, non?
C'était peut-être bien Charlie Hebdo ou la grosse Bertha, enfin des journaux. Et je trouve qu'il y a parfois, je suis souvent très très inquiet de ce qui va suivre comme bêtise dans les semaines qui vont suivre, parce qu'effectivement, la violence de la barbarie paralyse la pensée.
Voilà, et notre rôle, et c'est exactement le propos du podcast sur le terrorisme. Donc encore une fois, j'invite, comme Antoine l'a fait, j'invite également les gens à aller réécouter ce podcast, même si voilà, on peut ne pas être d'accord avec tout non plus. Hein. Il y a peut-être effectivement des cas dans lesquels l'utilisation du terme se justifie. Mais Olivier, vous, en tant que bon avocat qu'il est, vous persuadera, ou à défaut de vous convaincre peut-être, que ce terme, en tout cas, a des effets malicieux.
Voilà, ça pousse aussi à prendre du recul.
À prendre du recul,
voilà, par rapport, mais même par rapport aux propos d'Olivier.
Oui, oui, tout à fait, ouais. C'est un podcast très intéressant qui n'a jamais été autant d'actualité, donc on vous invite aussi à aller l'écouter. Eh bien, merci Audrey, merci Julien, merci Amir, merci Antoine.
Merci Romaric.
J'ai envie de dire que la fête commence.
Merci Rome.
On va jouer et puis on reviendra débriefer avec vous. À bientôt.
Avec plaisir.